VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Conakry et 17h à Kinshasa. Bienvenue dans notre bulletin d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, du nouveau sur l'attentat contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts le 2 avril au Kenya. Les quatre assaillants ayant mené cette attaque revendiquée par l'organisation islamiste Al-Shabaab seraient tous kényans. C'est du moins ce qu'indique le Daily Nation, le plus gros tirage de la presse nationale. Le point avec Eddie Isango.
Ces quatre assaillants ont été tués par les unités d'intervention kényanes. Jusqu'ici, seul un d'entre eux a été officiellement identifié. Il s'agirait d'un Kenyan d'ethnie somalie, originaire des Mandera, ville du nord-est kényane, frontalière avec la Somalie et diplômé en droit de l'université de Nairobi. Les trois autres seraient eux aussi kényans, encore des sources qui ont gardé l'anonymat au sein des services des renseignements. Ils seraient originaires de Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est, de la région de Bungoma, près de l'Ouganda. Aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue. Si leur nationalité kényane venait à être confirmée, cela démontrerait les capacités de recrutement des islamistes somaliens d'Al-Shabaab et la radicalisation d'une partie de la jeunesse kényane.
Nouveau naufrage en Méditerranée d'une embarcation de fortune transportant des migrants venus de Libye. Naufrage qui a fait 41 disparus selon le récit de survivants recueillis par le personnel humanitaire et la police. Et toujours en mer Méditerranée, 15 immigrés d'origine africaine et de confession musulmane ont été arrêtés à leur arrivée en Sicile. Ils sont accusés d'avoir jeté par-dessus bord 12 réfugiés chrétiens après une rixe sur le bateau les transportant en Méditerranée. C'est ce que rapporte la préfecture de police de Palerme, citée par l'AFP. Une épidémie de méningite qui sévit depuis janvier au Niger a déjà fait 75 morts, dont plus de la moitié dans la capitale Niamey, selon un nouveau bilan donné à la télévision d'État par le ministre de la Santé, Mano Agali. Toutes les régions du pays sont touchées à l'exception de Difa dans le sud-est, proche du Nigeria, c'est ce qu'a indiqué le ministre. Niamey est la zone la plus frappée avec plus de la moitié des décès, soit 41 sur 279 cas. Des campagnes générales de vaccination seront entreprises dès la semaine prochaine, a précisé le ministre, dans les zones les plus touchées par cette épidémie de méningite. En Côte d'Ivoire, l'ONG Reporters sans frontières, RSF, a dénoncé l'immobilisme dans l'enquête concernant la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer dans des circonstances troubles il y a 11 ans à Abidjan. RSF s'inquiète de l'absence de progrès dans l'enquête et demande aux autorités françaises et ivoiriennes de concrétiser leurs promesses d'élucider l'affaire. C'est RSF qui l'a indiqué dans un communiqué transmis jeudi à l'AFP. Guy-André Kiefer a disparu le 16 avril 2004 sur un parking de la capitale économique ivoirienne alors qu'il avait rendez-vous avec Michel Legré, beau-frère de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne. L'Algérie, chef de file dans la médiation dans la crise malienne, a invité toutes les parties prenantes hier à Alger pour un nouveau round de négociations. Le gouvernement malien a déjà paraphé le préaccord. Par contre, la coordination des mouvements de l'Azawad dit qu'il y a encore des points à clarifier. Une partie de cette coordination de trois mouvements Touareg veut la reconnaissance de l'Azawad comme entité géographique, la création d'une assemblée interrégionale comprenant Gao, Kidal et Tombouctou, et souhaite aussi définir la liste des combattants qui doivent intégrer l'armée malienne et leurs grades. En République démocratique du Congo, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'ACAJ, exige la libération immédiate des jeunes Congolais détenus au secret depuis un mois suite à des manifestations anti-gouvernementales. L'ONU aussi demande aux autorités de les déférer devant la justice conformément aux dispositions de la Constitution congolaise, spécifiant que la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. Et RDC toujours, début des opérations d'enregistrement des candidatures pour les élections régionales. Des précisions sur les activités en cours avec le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba, au micro d'Eddie Isango.
Bonjour.
Un petit problème au niveau du reportage. Nous enchaînons avec Washington. Le président Barack Obama a salué ce qu'il qualifie de progrès considérable dans la lutte contre l'épidémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, des félicitations formulées alors qu'il recevait hier les leaders des trois pays les plus touchés par l'épidémie. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé aujourd'hui un appel alors que des attaques xénophobes, nous vous en parlons déjà depuis assez longtemps sur nos antennes. Par ailleurs, donc, des étrangers et des Sud-Africains sont descendus dans les rues de Durban pour crier leur hola. Michel Reviès revient donc sur ces manifestations.
Au moins 4000 personnes ont marché contre la xénophobie à Durban, à l'appel des autorités locales qui avaient loué des bus pour l'occasion afin de permettre aux habitants des townships de venir manifester. La marche a commencé de façon pacifique, nous dit Kapende Ntashi, un témoin, mais la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser des contre-manifestants. L'incident a duré quelques minutes. Le chef de l'État a condamné les violences dans les termes les plus forts. Nous appelons au calme et à l'arrêt des violences, a lancé Jacob Zuma lors d'une allocution au Parlement retransmise en direct à la télévision. Kapende Ntashi, un Sud-Africain opposé aux attaques xénophobes, dénonce la montée de la peur et les messages de haine. Les violences xénophobes dans les faubourgs de Durban, le plus grand port sud-africain sur l'océan Indien, ont fait au moins 6 morts depuis début avril. Les émeutiers accusent les étrangers de prendre le travail des Sud-Africains ou de faire une concurrence déloyale au commerce local dans les townships où le taux de chômage atteint les 40%. Au moins 4000 personnes ont marché contre.
Au Maroc, 2 personnes, dont une ressortissante française, ont été arrêtées jeudi à Safi, dans le centre-ouest du pays, alors qu'elles planifiaient un acte terroriste au nom du groupe djihadiste État islamique. C'est ce qu'a annoncé le ministère marocain de l'Intérieur. Et le président Barack Obama et le premier ministre irakien Haider al-Abadi ont discuté cette semaine à Washington de la lutte contre le groupe État islamiste. Des discussions où le département d'État américain a fait lui aussi part de ses inquiétudes et s'est dit engagé dans ce combat sur ce même front. Les précisions de Lionel Gaïma.
De représentants de 11 pays membres de la coalition américaine contre le groupe État islamique effectuent actuellement une tournée ici aux États-Unis. Au programme de rencontres à Washington, New York et San Francisco pour explorer les moyens de contrer la propagande du groupe militant, en particulier l'attrait qu'il exerce sur certains étrangers. Plus de 3000 Marocains ont déjà rejoint des rangs du groupe en Irak et en Syrie, a fait remarquer le législateur marocain Mohamed Ben Khaloud qui participe à la tournée. Les principales raisons sont le chômage et la pauvreté. Comme vous le savez, la plupart de ces gens sont à la recherche d'une vie meilleure qu'ils peuvent n'est pas trouver dans leur propre pays. Le groupe État islamique utilise avec succès des médias sociaux pour faire appel aux étrangers, explique Khaled Okacha, directeur du Centre national égyptien d'études des sécurités. Ils ciblent donc les jeunes en quête probablement d'aventures, de nouvelles expériences et qui peut-être ont aussi en eux une violence qu'ils veulent exprimer. Selon des responsables américains, plus de 20 000 étrangers ont rejoint les rangs du groupe État islamique, dont environ 3 400 occidentaux. Parmi eux, le soi-disant djihadiste John, qui est apparu dans plusieurs vidéos de décapitation de l'État islamique et qui serait britannique.
Un journaliste ukrainien pro-russe connu, Oles Boudzina, a été tué aujourd'hui à Kiev. C'est le 2e meurtre par balle d'une personnalité pro-russe dans la capitale ukrainienne en 24 heures. Et pour parler sur le nucléaire iranien, les négociateurs de l'Iran et 6 grandes puissances du P5+1 reviennent sur leur discussion la semaine prochaine à Vienne, en Autriche. Plus exactement, les 22 et 23 avril prochains. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Retrouvez-nous 24h sur 24 sur VOA Afrique et notre page Facebook. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.